Marco Siffredi est né en 1979. Il est chamoniard. Son père est coiffeur et guide de haute montagne l'été. Et à 16 ans, Marco se fait offrir un snowboard, un surf des neiges. Et il va entreprendre au grand dam des services de sécurité de descendre toutes les pentes les plus vertigineuses du massif du Mont Blanc. L'aiguille du Midi, l'aiguille verte, avec des pentes à parfois de plus de 60 degrés. Et bientôt, les Alpes ne lui suffisent plus, et en 2001, il va s'affronter à l'Everest et réussir la première descente intégrale du versant tibétain en snowboard par le couloir Norton, en face nord. Avant lui, personne, ni à ski, ni en snow, n'y est parvenu. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui permet à ce Marco, à chaque virage, d'adopter finalement la bonne position, les bons réflexes, la bonne inclinaison de son surf, pour ne pas tomber, pour ne pas être précipité immédiatement, la tête la première en bas de la pente, broyé par sa chute. Alors c'est bien sûr son excellente technique, mais c'est aussi une substance qui décuple nos capacités pour faire face au danger, qui augmente notre rythme cardiaque, qui dilate nos pupilles, c'est l'adrénaline. C'est cette hormone de la survie. Eh bien, ce gérant malhonnête, lui aussi, il est dans une situation de quasi-survie. Son maître le convoque, il fait mal son travail, il va être licencié, et c'est la mort sociale qui l'attend. La déchéance. Il veut pas travailler à la terre, c'est trop dur, mais il sera contraint de mendier s'il ne peut pas faire autrement. Alors, comme on dit familièrement, il se bouge, il n'attend pas. L'urgence l'inspire. Il trouve ce stratagème de verser de l'argent, des pots de vin, et ainsi se fait des amis avec ses anciens collaborateurs administrés, et il va pouvoir compter sur leur aide. Eh bien, Jésus fait son éloge, éloge de son astuce, éloge de sa réactivité, éloge parce qu'il est parvenu à ses fins. Et sincèrement, je me demandais, à nous autres chrétiens, cette adrénaline spirituelle qui décuple nos forces, qui nous permet d'arriver à nos fins, pourquoi semble-t-elle nous manquer? Alors on se contente parfois un peu rapidement de ce qu'on nous répète. Pour la mission, nous avons l'obligation de moyens, mais non pas de résultats. D'un certain côté, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas un peu de la paresse? Faisons au mieux, puis advienne que pourra. Et on se contente d'échecs parfois. Eh bien, l'intendant, il n'a pas tenu ce raisonnement. Ce raisonnement, il l'aurait conduit rapidement sur la paille ou dans la roue. Alors, peut-être trois raisons à ce manque d'adrénaline spirituelle au missionnaire. Et puis trois remèdes aussi. N'y a-t-il pas secrètement, au fond de notre cœur, une indifférence à la fin qu'on est censé poursuivre? On se laisse porter par le courant, mais on ne nage pas beaucoup, finalement. Et la fin, que nous rappelle la deuxième lecture, n'est pas vitale. Quelle est cette fin? Cette volonté que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors certes, on n'est pas méchant, on n'est sans doute pas malhonnête, on se contente d'aimer le bon Dieu, c'est déjà beaucoup. Mais est-ce qu'on se dit, comme Vincent de Paul, qu'on va fêter cette semaine, « Il ne me suffit pas d'aimer Dieu si mon prochain ne l'aime pas de même. » Et personnellement, je l'avoue, chaque nuit, je ne suis pas réveillé par cette question, cette question qui taraudait Dominique et qui le réveillait la nuit. Que vont devenir les pécheurs ? Honte à moi. Voilà. Cette fin de volonté de salut de tous les hommes, eh bien, elle passe un peu sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Alors, pour parler de cette tiédeur, il me semble qu'il faudrait que nous fassions comme notre bon père Lamy. Le père Lamy, il avait, notre fondateur, il avait cette intuition de voir les gens dans leur destinée éternelle. Pas simplement dans le moment présent, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Que va-t-il advenir de leur éternité ? Et quand nous avons quelqu'un dans notre famille qui semble s'éloigner de Dieu, est-ce qu'on se pose cette question ? Que sera son éternité ? Nos contemporains, nos collègues, est-ce qu'on se pose cette question à propos d'eux ? Vous savez, c'était la maman de Saint-Louis, qui était sans doute aussi d'un caractère assez fort, qui disait à son cher fils, « J'aime mieux te voir mort qu'en état de péché mortel. » Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est pas très politiquement correct ni très bien porté, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Ta destinée éternelle, eh bien, elle m'importe plus que tout. Une autre raison de ce défaitisme, c'est de cette manque d'adrénaline, c'est peut-être ce défaitisme. Alors, quand on évoque la situation de l'Église, on dit, ah oui, la pratique baisse, les jeunes n'ont plus de repères, les vocations sont en berne, etc. C'est un mouvement général en Occident, c'est un déclin. Mais en disant cela, il me semble qu'on fait de l'idolâtrie. On idolâtre ce mouvement du déclin comme une force aveugle et absolue à quoi Dieu finalement lui-même va soumettre. Et c'est parfois très profondément logé dans notre cœur, cette affaire-là. Et on peut être un très bon catholique pratiquant, un prêtre, un religieux, et on oublie encore une fois cette volonté de Dieu de sauver tous les hommes, mais surtout que c'est une volonté efficace, efficace aussi à la condition qu'on y collabore. Alors, vous connaissez cette petite anecdote. Il y avait un jeune prêtre qui est rue d'une paroisse, qui visiblement va pas très bien. L'église est dégoûtante, il n'y a plus de fleurs où elles sont fanées, il n'y a plus de chorale, il n'y a plus d'enfants de cœur, les gens se disputent, etc. Alors il arrive, il retrousse ses manches, et puis il organise des équipes de fleurissement, de nettoyage, il réorganise le chœur, les enfants de chœur aussi. Et puis, petit à petit, les gens se parlent, s'apprécient, une vraie communauté se met en place. Et quelques années après son arrivée, l'évêque arrive pour faire sa visite. Alors il inspecte tout ça, cette église somptueuse, cet accueil chaleureux. Et puis, il donne ses conclusions à ce jeune prêtre. Écoutez, vraiment, mon père, je vous félicite parce que l'Esprit Saint et vous-même avez vraiment bien travaillé durant toutes ces années. Et le jeune curé de répondre, oui, c'est vrai, parce que quand c'était l'Esprit Saint tout seul, c'était pas très brillant. Voilà. Donc, effectivement, on a besoin de notre collaboration. Le Seigneur a besoin de cette collaboration. Et en même temps, ce jeune prêtre, eh bien, il a besoin de se reposer sur cette victoire de Dieu qui lui donne toute cette force. Alors, pour pallier cet autre défaut, peut-être repenser à ces premiers chrétiens, à cette histoire de l'Église. Ils ne sont qu'une poignée, ceux à qui s'adresse Paul. Et devant eux, l'Empire romain, un empire qui couvre tout le bassin méditerranéen, une organisation de fer, et puis vous le savez, une hostilité féroce contre les chrétiens. Bref, une espèce de monstre. Mais eux sont soutenus par la certitude de la victoire définitive du Christ. Et l'Apocalypse de Saint Jean leur remet sous les yeux ce triomphe final du Sauveur. Et du coup, ils ont l'espérance, ils ont la force, et l'Évangile va se répandre dans toute cette terre qui était autrefois sous l'emprise du paganisme. Alors, peut-être une troisième raison aussi pour ce manque d'énergie spirituelle, c'est que nous pratiquons l'amour, on y revient souvent, chrétien c'est la religion de l'amour, etc. Mais parfois notre amour est bête. Voilà. Nous nous contentons de la bonne intention, et c'est déjà pas mal, nous nous disons. Mais nous ne sommes pas astucieux comme ces fils de la ténèbre qu'évoque le Seigneur Jésus. Nous prions, parfois même nous agissons, mais souvent nous ne pensons pas. C'est un peu hors cadre. Et nous avons besoin qu'à nouveau, eh bien, l'intelligence imprègne notre amour. Comment faire pour regagner, par exemple, le cœur de mes ados, à la fois eux qui s'éloignent de l'Évangile? Comment faire pour améliorer avec les bons moyens les relations avec mon conjoint? Comment faire aussi pour que devant mes collègues de travail, je ne sois pas immédiatement catalogué comme un catho bien pensant et du coup hors jeu d'emblée? C'est important qu'on se pose ces questions et qu'on n'ait pas simplement pour nous cette bonne conscience d'une intention droite. Pour diffuser, petite parallèle avec le monde profane, pour diffuser un produit, disons une célèbre pâte à tartiner, combien d'études de matières grises engagées pour connaître la population à qui on le destine, la manière dont elle agit, quels sont ses goûts, combien de créativité, combien de publicité appropriée pour arriver à ses fins, et disons-le aussi, combien d'amour, un amour de l'argent, mais un amour inspirant. Alors, l'amour du Seigneur, l'amour des autres, est-il inspirant pour nous aussi? Tout au long de l'histoire de l'Église, de grands maîtres spirituels nous ont rappelé que notre amour devait ouvrir les yeux. Saint Bernard disait « Que ton amour soit fort, mais qu'il soit aussi prudent ». Et il y a quelques années, Benoît XVI écrivait cette très belle lettre, une encyclique sociale, « La charité dans la vérité », pour redire que notre amour avait besoin d'être intelligent. Alors ceci, je pense qu'en même temps, on peut dire il y a des belles choses qui se passent, notamment dans notre pays. Vous savez, il y a quelques années, pour les plus âgés d'entre nous, il y avait un slogan qui disait « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Alors on peut dire en France, la foi a baissé, peut-être, mais on a des idées, on en a beaucoup. Donc je pense, soyons frais, fiers de notre génie français. C'est un génie dont l'Église a besoin, énormément d'initiatives quand on voit pendant l'été, et notamment de la part des laïcs. Les laïcs qui sont la voix de l'Église dans le monde et la voix du monde dans l'Église. On a besoin de cet apport de plus en plus. Voilà, donc certes, ouvrir les yeux, certes, faire tous ces efforts, mais en même temps s'appuyer sur ce qui déjà existe, qui montre que l'Esprit-Saint est bien là, fidèle, à nous inspirer. Et pour conclure, je voudrais dire que vraiment notre vraie adrénaline, la source intarissable de notre vitalité, de notre intelligence, c'est la résurrection du Christ. Il se donne aujourd'hui dans sa parole, il se donne dans son Eucharistie. Alors, recevons-le peut-être, mais recevons-le comme la condition de notre survie. Celui qui va nous permettre de négocier le prochain virage sans tomber. Et puis souvenons-nous, c'est là où s'arrête la comparaison. Si nous tombons, la Vierge Marie nous relèvera.